Le vendredi 3 mai, pour vous, Français qui vivez à l'étranger, c'est la date limite pour vous inscrire sur les listes électorales consulaires afin de pouvoir voter aux élections européennes de juin 2024. Ne tardez pas, rendez-vous sur service-public.fr.
À voix nue, Caroline Brouet,
Sylvie Berman, ambassadrice de France.
Deuxième épisode, le rêve chinois de Bailin, la forêt blanche. Bonjour Sylvie Berman.
Bonjour Caroline Brouet.
Bailin, c'est votre nom chinois ?
Bailin, c'est mon nom chinois, c'est mon professeur de chinois à Paris qui m'a donné ce nom. Bai étant la première syllabe de Berman, et Lin en chinois veut dire la forêt, et Sylvie en latin veut dire la forêt. Et donc c'est un nom qui en plus est un nom qui sonne bien en Chine.
Donc on vous a quitté hier pour la première émission sur votre arrivée au Consulat général de France à Hong Kong en 1979. Vous y passez un an avant d'être nommé deuxième secrétaire à l'ambassade de France en Chine de 80 à 82. Peut-être avez-vous envie de dire un mot quand même de cette expérience à Hong Kong ?
Oui, tout à fait. À l'époque, Hong Kong, c'était le lieu d'où l'on observait la Chine. Ça porte un nom, c'est le China Watching. Et c'est d'ailleurs pour cela que le poste avait été créé. Et donc, j'étais vice-consul et attaché de presse. J'avais adoré le titre de vice-consul parce que c'est un titre très durassien et que j'aimais beaucoup Marguerite Duras. À l'époque, effectivement, on lisait beaucoup de revues. Il y avait les écoutes des jésuites aussi sur ce qui se passait sur le continent chinois. Mais c'est une période qui était sans doute un peu moins intéressante puisque, les Américains avaient connu la Chine et avaient installé leur ambassade en Chine. Donc beaucoup de journalistes, de sinologues ont quitté Hong Kong. Mais Hong Kong, c'était intéressant parce que c'était un conservatoire de la culture chinoise. C'est-à-dire que cette culture avait été totalement bannie pendant la révolution culturelle, alors qu'elle était encore vivace à Hong Kong avec toutes les fêtes traditionnelles, les gâteaux de lune, les bateaux dragons, et puis surtout les hommages rendus aux morts dans ces cimetières où on apportait de la monnaie en papier, des objets de leur vie terrestre qui étaient censés les accompagner. Et on appelait ça aussi, on balayait les tombes. Donc c'était très impressionnant parce que tout ça n'existait plus en Chine. Mais, et puis Hong Kong, par ailleurs, c'était le dynamisme. Mais le dynamisme, ce n'était pas les Anglais. Les Anglais laissaient faire, c'était les Chinois, les capitalistes chinois, en réalité les chefs d'entreprise qui avaient émigré en 1949, donc de Shanghai à Hong Kong. C'est eux qui ont créé la prospérité de Hong Kong. Et on peut donc imaginer que, même à cette époque-là, que des Chinois libres pourraient effectivement développer leur pays. Et puis, il y a autre chose qui a été très marquant, c'est qu'il y avait un petit village à la frontière chinoise qui s'appelait Shum Shum, en cantonais, c'est Shenzhen. Et à l'époque, c'était un village de pêcheurs. Donc j'avais accompagné mon consul général pour aller voir ce qui se passait. On a été reçus par les autorités du parti, de la ville, dans un bâtiment qui ne payait pas de mine. Autour, il y avait 2-3 chantiers avec des échafaudages en bambou. Les ouvriers portaient juste un casque là aussi en bambou. Tout ça était assez léthargique d'une certaine manière. Et ils nous ont expliqué qu'ils voulaient faire un deuxième Hong Kong. Et quand j'ai rendu compte de cette visite, c'était compliqué pour y aller, il fallait prendre le train, changer, traverser le No Man's Land. Le consul général de l'époque avait écrit « Il ne se passera jamais rien là-bas ». J'y suis retournée 20 ans plus tard et évidemment, il y avait 11 millions d'habitants et c'était le centre de l'usine et même du laboratoire du monde.
Vous étiez vice-consul et attaché de presse, donc, à Hong Kong, et vous voilà deuxième secrétaire de l'ambassade de France en Chine, à Pékin, En 80, vous y restez 2 ans. Ça veut dire quoi, deuxième secrétaire de l'ambassade ?
Oh, il y a toute une hiérarchie dans la diplomatie, c'est-à-dire vous commencez comme troisième secrétaire, ensuite vous êtes deuxième, puis premier, puis ensuite deuxième conseiller, premier conseiller, ministre conseiller et ambassadeur. Enfin, c'est toute la hiérarchie, effectivement. À l'époque, j'étais chargée du dossier de politique étrangère et en particulier du Cambodge. C'est là que j'ai eu la chance de rencontrer le prince Sihanouk.
Qui était abrité par la Chine
tout à
ce moment-là.
Dans l'ancienne légation de France, d'ailleurs, puisque les Chinois n'avaient pas restitué les légations à cause des mauvais souvenirs de l'époque des légations extraterritoriales. Et donc, on avait des ambassades, mais cette légation de France avait été offerte au prince Sihanouk qui nous y recevait de temps en temps. Elle avait été en grande partie détruite, hein, il ne restait plus que les lions et la grande porte d'entrée, ils avaient tout modernisé.
Parce qu'il faut rappeler que à ce moment-là, le Cambodge sort de 3 ans de Khmer Rouge, de régime Khmer Rouge, responsable d'un génocide de près d'un tiers de la population cambodgienne. La politique des Khmer Rouges s'est interrompue par l'intervention des Vietnamiens. Et à ce moment-là, le prince Sihanouk, qui était donc abrité, hébergé en Chine, soutenait les Khmer Rouges. Il avait une politique qui était particulière, puisqu'il soutenait les Khmer Rouges contre les Vietnamiens. De quoi étiez-vous chargé, vous ? Qu'est-ce que vous aviez pour mission de faire à ce moment-là ?
Alors, le Cambodge, c'est un sujet qui est complètement oublié, mais qui à l'époque occupait beaucoup les esprits et les diplomates. Donc l'idée, c'était de trouver une solution de réconciliation autour du prince Sihanouk. Alors effectivement, il a eu une attitude ambiguë avec les Khmer Rouges, parce que les Khmer Rouges ont tué une grande partie de sa famille, mais en même temps, c'est eux qui représentaient le Cambodge aux Nations Unies. Ils ont conservé le siège et les Vietnamiens étaient perçus comme des envahisseurs et des agresseurs. Donc à l'époque, il n'y avait pas encore d'esquisse de solution, mais le sujet était de suivre cette question, de suivre les positions chinoises à cet égard. Alors pas seulement sur le Cambodge, sur toute la politique étrangère chinoise, mais ce qui était le plus marquant à l'époque, c'est cela.
Sylvie Berman, on est au début de la politique de réforme et d'ouverture de Deng Xiaoping, celle qui va transformer un pays qui est d'une extrême pauvreté, comme vous nous la racontiez dans le premier épisode, en une grande puissance en l'espace de 30 ans. On est au début de cette politique de réforme. C'est un pays et une période où le pays changeait très vite avec un double mouvement. Il y avait à la fois l'ouverture à l'Occident, et puis la réhabilitation d'une culture traditionnelle. Vous le racontez dans vos mémoires, vous dites par exemple que vous avez pu voir un Carmen monté par une troupe française, c'était un vrai événement. Puis il y a eu le tournage du Dernier Empereur de Bernardo Bertolucci, et c'était aussi la réhabilitation de Confucius. Donc c'est pareil, il faut se remettre quand même dans cette époque-là.
Oui, tout à fait, parce que Confucius, quand j'étais étudiante, il y avait une campagne qu'on appelait Pilin Pikong, qui veut dire critique de Confucius et de Zhou Enlai, qui était un peu considéré comme le mandarin traditionnel. Et on entendait ça absolument tous les jours. Et à l'inverse, dans cette période-là, ils ont rouvert le temple de Confucius et puis la ville natale de Confucius qu'on avait visité également. Ils avaient rouvert aussi le temple des Lama qui est tibétain, mais puisque toute forme de religion a été interdite, même si c'est devenu un musée. Mais tous les jours, il y avait quelque chose de nouveau en Chine. Il y a eu l'ouverture du premier restaurant qui était italien, je crois. Donc oui, ça changeait tous les jours. Mais le pays restait quand même très, très pauvre.
On en est au début, il faut vraiment le dire. Début des années 80, c'est tout début de la politique de réforme. Et ça, c'est sur le plan presque intérieur, j'ai envie de dire. Sur le plan de la diplomatie, vous étiez encore toute jeune diplomate à l'époque. C'est une période riche, c'est une période intéressante. On est en pleine guerre froide, dans un univers quand même à la John le Carré, quand même avec le camp du bien contre l'empire du mal. À l'époque, on disait encore l'Est et l'Ouest dans les chancelleries. Est-ce que si vous vous replongez à cette époque-là, vous avez le souvenir d'une période de tension, de méfiance, ou au contraire d'une ouverture et d'une grande richesse, d'un grand intérêt.
Non, je pense que c'était plutôt une politique d'ouverture, même si c'était pas très facile, enfin dans les relations entre les Chinois et les étrangers, c'était toujours pas très encouragé. Moi, j'ai une amie qui avait été arrêtée un soir dans ma voiture, par exemple. Et souvent, quand on donne des rendez-vous, on ne fixait pas, on décidait à l'avance du lieu et de l'heure. Mais la seule chose que faisaient les Chinois, c'est qu'ils appelaient par téléphone et en disant le jour, c'est tout, en ne disant rien d'autre. Ils allaient dans une cabine.
Ah, vous disiez John Le Carré, un petit côté espion comme
puis
ça.
Une fois, il y a eu une erreur et quand je suis passée prendre cette amie, elle a été arrêtée. Donc, ce qui montre que tout n'était pas très, très facile, même si elle n'a pas eu de problème. Mais pendant 48 heures, je n'avais pas eu de ses nouvelles. Mais donc, le pays changeait. Sur le plan diplomatique, que Deng Xiaoping fascinait et donc beaucoup de dirigeants, même non chefs d'État, puisque lui-même gouvernait un peu derrière le rideau, puisqu'il y avait un secrétaire général du parti et un premier ministre qui n'était pas lui, mais c'était la personnalité forte et beaucoup venaient le rencontrer. J'avais vu une visite de François Mitterrand, qui était à l'époque premier secrétaire du Parti socialiste. C'était en février 81.
Oui, puisqu'entre 1980 et 1982, vous avez aussi changé de président. On est passé de Valéry Giscard d'Estaing, à votre arrivée, à François Mitterrand comme président. Qu'est-ce que cela a changé? Est-ce que ça a changé quelque chose dans la diplomatie?
Non, en réalité, ça n'a pas beaucoup changé parce que finalement, les grandes lignes de la diplomatie sont assez immuables. J'avais vu la visite officielle de Giscard d'Estaing en septembre 80 en Chine. C'est toujours très émouvant d'entendre la Marseillaise sur la place Tiananmen ou dans un lieu qui est le lieu symbolique d'un pays. Je l'ai ressenti à d'autres occasions dans d'autres pays aussi. Donc ensuite, la relation entre la France et la Chine a presque toujours, je dis presque toujours parce qu'il y a eu l'incident de la réception du Dalai Lama par Nicolas Sarkozy, l'épisode des Jeux Olympiques, mais autrement elle était plutôt privilégiée, avait un côté un peu affectif, même si ça se traduisait pas toujours dans des termes économiques où évidemment on était dépassé par les Allemands. Mais les relations étaient chaleureuses à cause de la reconnaissance en janvier 1964 de la République de Chine par le général de Gaulle. Ils ont, lui, voué une grande reconnaissance à cet égard. C'est toujours célébré. Donc cette année, on célèbre d'ailleurs le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques. Et les Chinois avaient un goût très prononcé pour la culture française aussi. C'est un de nos grands atouts dans le monde. On dit aujourd'hui le soft power. Donc les relations à cette époque, au début des années 80, étaient très bonnes.
Vous nous disiez, Madame l'ambassadrice, hier que dans le premier épisode, que la Chine avait quand même constitué le fil rouge de votre carrière. D'ailleurs, je vous parle en regardant autour de moi et je vois beaucoup d'objets et de meubles chinois. Vous avez continué votre carrière après cette première deuxième expérience chinoise au début des années 80 sous d'autres cieux. Et vous n'êtes retourné en Chine comme diplomate, j'entends, qu'en 2011. Mais pas n'importe quel diplomate, vous êtes devenu ambassadeur de France. Est-ce que vous l'avez vécu comme une forme d'accomplissement, puisque la Chine avait été le point de départ de tout ça?
Oui, tout à fait. Je suis presque rentrée au Quai d'Orsay pour retourner en Chine après y avoir été étudiante. Et dans mon esprit, effectivement, la fin de carrière, c'est un poste d'ambassadeur. Et pour moi, c'était normal que ce soit en Chine. Donc c'est, comme vous le dites, le poste de mes rêves, un accomplissement. Et je pense, j'ai été intéressée par tous les autres postes où j'ai été. Mais je pense que j'aurais été frustrée si effectivement je n'avais pas pu être ambassadeur en Chine. Ce que j'ai eu ensuite, c'était d'une certaine manière de surcroît. Donc j'ai été très heureuse à Londres, à Moscou, mais la Chine, pour moi, c'était important.
Alors vous n'aviez pas cessé d'y aller, puisque vous aimez vraiment ce pays, donc vous avez vu les changements progressifs. Mais malgré tout, si on franchit les 30 ans, entre 1981 et 2011, la Chine est devenue deuxième puissance mondiale pendant ces 30 ans. Ça veut dire, comme la question que je vous posais à votre arrivée en 1976, quand vous arrivez à Pékin en 2011 comme ambassadrice, quelle Chine redécouvrez-vous?
Oui, en fait, j'étais retournée pratiquement chaque année en Chine, sauf quand j'étais à New York, parce que c'était beaucoup plus compliqué. Mais j'y passais quelques jours, tandis que là,
fallait vous y installer.
Confrontée à une réalité un petit peu différente. D'abord, j'ai pris mes fonctions, mon premier acte officiel était le 8 mars, fête des femmes, qui a toujours été célébrée dans ce pays. 30 ans plus tôt, on m'y avait envoyé contrainte et forcée parce que j'étais la seule femme diplomate de l'ambassade. Et là, j'y allais en tant qu'ambassadeur.
Première femme ambassadeur de France dans un pays de cette taille, hein, et de cet important sur le plan géopolitique. Première en Chine depuis le 19e siècle, on disait.
Oui, c'est ce que deux jeunes journalistes chinois qui ont dit que j'étais la première femme ambassadeur de France en Chine depuis le 19e siècle. Et ce qui est amusant, c'est qu'il est arrivé... D'abord, cette formule était reprise assez souvent quand il y a eu des articles sur moi. Parce que beaucoup de journalistes m'ont interviewée, à la fois parce que j'étais une femme, mais parce qu'ils connaissaient mon histoire et le fait que j'avais, comme leurs parents ou grands-parents, repiqué le riz dans les rizières au moment de la fin de la Révolution culturelle. Et en fait, oui, un jour même un ministre m'a reçu, très rapidement, alors que souvent ça prend un certain temps, il faut envoyer des notes verbales. Il me dit « je voulais vous voir pour voir la première femme ambassadeur depuis le 19e siècle. »
Donc c'est resté quand même.
C'est resté.
Alors vous arrivez dans cette période dont vous dites que c'est une période de relative liberté pour les Chinois, à condition toutefois qu'on ne fasse pas de politique. On pense bien sûr aux militants des droits de l'homme, que je peux mettre au pluriel, militants, mais notamment à Liu Xiaobo, qui a été prix Nobel de la paix en 2010, mais qui a été condamné en 2009 à 20 ans de prison, ou encore à l'avocat Cheng Guangcheng, pardon pour la prononciation, qui lui a réussi à fuir aux États-Unis, et puis d'autres encore. Donc relative liberté, mais il ne fallait pas trop parler de droits de l'homme et de politique.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire, il y avait des lignes rouges bien claires à l'époque et effectivement, il ne fallait pas contester le Parti communiste. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand j'ai quitté la Chine, je me souviens de ce que m'a dit un Chinois en me disant « En Chine, c'est toujours deux pas en avant et un pas en arrière. » Mais ça veut dire que c'est un pas en avant à chaque fois. C'est plus le cas. Même certains Chinois disaient que finalement, ils n'avaient jamais joui d'autant de liberté qu'à cette période. Bien sûr, ce n'était pas total, puisqu'il y avait cette limite. Mais en même temps, il y avait des débats sur Weibo, qui est le Twitter chinois, des débats d'autant plus riches qu'en fait, en 140 signes, vous dites beaucoup en chinois, beaucoup plus qu'avec 140 mots en français ou en anglais. Et ils étaient très iconoclastes, en fait, se moquaient du parti, se moquaient des dirigeants, parlaient du défilé de mode au moment des réunions ou du congrès ou de l'assemblée populaire, parce qu'ils avaient tous des montres, des cravates Hermès ou autres, et ils faisaient beaucoup de plaisanteries sur les dirigeants, sans qu'il y ait de censure ou une censure trop brutale. Alors, il arrivait quand même qu'il y en ait, parce que quand je suis arrivée, c'était aussi la révolution du jasmin en Tunisie. Début des printemps arabes, et les Chinois, comme tous les régimes autoritaires, ont peur des mouvements de rue, et ils avaient banni le terme jasmin, alors que, On boit du thé au jasmin.
Oui, c'est peut-être compliqué de bannir le terme jasmin qui doit revenir beaucoup.
Et la chanson la plus connue, c'est Fleurs de jasmin aussi. Donc, ça n'a pas duré longtemps, mais ça montre un peu le caractère surréaliste de la censure. Alors, il y avait en revanche une censure totale en ce qui concerne les événements du 4 juin, c'est-à-dire Tiananmen 89. Et là, les Chinois contournaient la censure en parlant du 34 mai. C'est un exemple parmi d'autres, mais c'est très possible de jouer avec les mots en Chine, parce qu'il y a beaucoup d'homophonie, et donc ils ne s'en privaient pas. Ça n'a pas duré éternellement, mais en tout cas, les Chinois disaient à ce moment-là qu'ils n'avaient pas une liberté totale, mais que dans leur vie, ils n'en avaient jamais eu autant.
Et puis, à cette période-là, il y avait des attentats ouïghours et puis une révolte au Xinjiang que regardaient avec beaucoup d'attention les autorités.
Tout à fait. Oui, avant, vous parliez tout à l'heure justement aussi des opposants, des dissidents. Et en fait, j'avais la possibilité de les rencontrer, ce qui n'a pas été le cas par la suite. Certains ont été en prison, en dehors de l'avocat.
Vous étiez libre de voir qui vous vouliez.
Oui, alors comment faites j'en ai rencontré un peu trop après un 14 juillet, parce que après le 14 juillet, beaucoup d'activités s'arrêtent, beaucoup de Français repartent en vacances, il n'y a plus tellement de visites et j'avais un peu plus de temps, donc je voyais effectivement quelques, sinon dissidents, mais des opposants. J'avais vu Ai Weiwei, par exemple, qui sortait juste de résidence surveillée, qui était très populaire. Et là, le ministère a commencé à dire que ça faisait un peu trop, que j'en voyais beaucoup. Mais bon, ça ne changeait rien. Et alors, parmi ceux-ci, je voyais Ilham Torti, qui est un Ouïghour modéré, qui enseignait à l'Université des minorités, qui avait une radio, mais qui était en ouïghour, mais qui était modéré. Il a été par la suite, comme vous le savez, arrêté. Il a été condamné à mort et puis ça a été commué en prison à vie. Il est toujours au Xinjiang. Alors c'est vrai qu'il y a eu à l'époque des actes terroristes. Il y en a eu un à l'entrée de la cité interdite, donc avec deux morts et des touristes blessés également. Et puis également à Kunming dans le sud, dans le Yunnan, où là il y a eu une attaque avec plusieurs dizaines de morts et de blessés au couteau. Il y en avait également au Xinjiang contre des postes de police. Et puis Xi Jinping a fait une visite au Xinjiang et là, il y a eu un attentat terroriste. Et je pense que ça a été pour lui une provocation et une humiliation qui a conduit par la suite, c'est pas l'époque où j'étais, mais plus tard, effectivement, à la répression des Ouïghours et puis l'enfermement dans des camps de rééducation. Ben nous, étrangers, on n'avait pas de problème, mais mes amis chinois disaient qu'ils étaient contrôlés en arrivant à Pékin quand ils étaient allés dans la campagne ou quand ils rentraient d'une autre ville.
Mais vous n'aviez pas de problème, mais vous avez quand même connu deux présidents chinois, Hu Jintao et Xi Jinping. Vous avez accueilli deux présidents français, Nicolas Sarkozy et François Hollande, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, les ministres des Affaires étrangères, et puis vous le dites même parfois tous les patrons du CAC 40 qui venaient bien sûr à l'ambassade. Est-ce que vous avez eu pendant cette période-là, donc 2011-2014, des cas de conscience en tant qu'ambassadrice de France en Chine, avec ce que vous entendiez, ce que vous voyiez?
Non, pas véritablement. Encore une fois, justement, j'essayais de voir des dissidents, j'essayais de voir aussi beaucoup d'ONG. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait des ONG qui défendaient les LGBT et qui me disaient à l'époque qu'en réalité, ça arrangeait le gouvernement chinois parce qu'ils ne savaient pas comment gérer cela. Bon, encore une fois, les choses ont évolué par la suite. Il est vrai que quand on essayait de faire rencontrer à un ministre des personnalités d'opposition, Les Chinois protestaient, donc une fois, il a fallu effectivement annuler la rencontre. C'est moi qui les ai reçus à la place du ministre, et voilà, pour éviter un incident diplomatique. Parce que c'est vrai que dans ces cas-là, les Chinois menacent d'annuler la rencontre avec le Premier ministre ou avec le président. Donc ça, c'est un petit peu compliqué. Mais sinon, encore une fois, c'est probablement une des périodes les plus fastes et les plus libres, sans qu'elle le soit totalement. Tout ça est bien sûr relatif. Alors à l'époque, c'était donc la célébration du 50e anniversaire des relations diplomatiques.
Entre les deux pays, entre la France et la Chine.
Entre la France et la Chine. Et il y avait un enthousiasme incroyable. On a organisé beaucoup d'événements à Paris, en Chine. On a fait venir les 10 grands chefs-d'œuvre des musées français. Et puis, tous les chefs d'entreprise voulaient être en Chine. Et un m'avait dit, de toute façon, pour être premier dans le monde, il faut être premier en Chine. Et donc, il y avait cet engouement très, très fort pour la Chine.
Quand vous êtes parti en 2014, est-ce que vous pensiez que la Chine irait dans une direction particulière ? Est-ce que vous êtes surprise de ce qu'elle est devenue 10 ans plus tard ?
À l'époque de Hu Jintao et de Wen Jiabao, moi je me souviens que certains Chinois que je recevais, qui étaient un peu dans l'establishment, me disaient « oui, notre problème c'est qu'on a des dirigeants un peu faibles ». Il y avait une aspiration à avoir des dirigeants plus forts. Et en fait, bon, Xi Jinping a été plus fort, mais à son arrivée, on avait le sentiment au contraire que tout était ouvert, parce que on l'avait rencontré pour la première fois, je l'avais rencontré avec le comité France-Chine du MEDEF en 2011, et on était sortis enthousiastes en se disant bah, « ça y est, c'est la modernisation de la Chine, la vraie libéralisation ». Et entre le moment ensuite où il a été élu à la tête du parti, à l'automne 2012, et puis le moment où il était chef de l'État, donc lors des réunions des deux assemblées, comme on le dit en Chine, Yanghui, au mois de mars 2013, il y a eu beaucoup de débats dans les médias, et des débats sur la constitutionnalité des lois, sur la démocratie. Et d'ailleurs, Li Keqiang, le Premier ministre, avait traduit un livre, je crois, de l'anglais en chinois, justement, sur la démocratie. Et donc, tout paraissait ouvert. Le secteur privé était enthousiaste, parce qu'il pensait que c'était son tour. Donc, effectivement, l'évolution par la suite a quand même surpris, parce que c'est allé dans un autre sens. Quand Xi Jinping est arrivé, il parlait un peu de la politique du ni-ni, qui était ni condamnation de la période de Mao, ni condamnation de la période de Deng Xiaoping et de l'ouverture. Mais finalement, ce ni-ni montre que, effectivement, le Mao et certains principes de Mao étaient pas complètement bannis. Alors que pour beaucoup de Chinois, quand je les rencontrais à l'époque, la révolution culturelle, c'était le Moyen-Âge. Ils ne voulaient absolument pas voir revenir cela. Et moi, j'avais même des amis qui s'était inscrit pour un voyage en Corée du Nord pour essayer de comprendre ce qu'était la révolution culturelle autrefois.
Donc surprise par cette évolution d'une certaine façon. Je vous demanderai la même chose demain pour le troisième temps de ces entretiens, Sylvie Berman, puisqu'on va passer à un autre pays que vous avez très bien connu, la Russie, que vous avez connu des années 80 aussi aux années 2020, le monde russe de Gorbatchev à Poutine. Et là aussi, vous nous direz si vous avez été surprise par l'évolution. Merci et à demain.
Merci à vous, à demain.
C'était À Voix Nue avec Sylvie Berman, réalisation Angélique Thibault, prise de son Virginie Lorda, chargée de programme Daphné Abgral, une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.